C'est pas pour autant que nous sommes deux. C'est sûr. Et ça fait partie précisément de ce phénomène. C'est pas un phénomène d'ailleurs, c'est une infestation satanique universelle. Hein? C'est pour ça que quand Jésus a dit, il est sorti de l'Eucharistie aujourd'hui dans le temple de Saint-Joseph, sur la montagne de la Jérusalem qui devait s'y planter. Et il a fait apparaître de l'hostie de manière vivante, une croix glorieuse vivante. Et de cette croix glorieuse, il s'est approché de ceux qui étaient là. Et il a dicté cette prière que nous faisons pour demander pardon. Et dans cette prière, il dit, vous ne pouvez pas demander pardon. Il n'y a que le Verbe vivant, la deuxième personne de la très sainte Trinité, le Verbe de gloire, la sponsalité incréée de Dieu dans la croix glorieuse, qui puisse demander pardon à travers moi. Prêtre éternel, victime d'amour. Victime glorieuse d'amour. Alors vous ne direz pas, mais c'est moi qui vous transpercerai, vous transporterai et vous transformerai de manière telle que ce sera bien ma voix qui ira dans les profondeurs du Père pour dire pitié. Pitié. C'est le plus grand scandale de ce monde. Pitié, Père. Délivre-les de l'esprit de Satan. Ils ne sont pas très nombreux, c'est vrai. Tu as demandé pardon. Et c'est normal, parce que c'est quelque chose qui atteint tellement les profondeurs de Dieu lui-même dans sa propre personne que... Et immédiatement, qu'il n'y a que la prière de sponsale hein, et divine et intérieurement glorieuse de celui qui s'est immolé pour que dans son amour fou pour le Père, il puisse demander pardon à travers nous. Alors, de sorte que nous ne sommes pas plus que les autres. Nous ne sommes pas au-dessus, sûrement pas. Mais nous nous jetons dans les bras du Saint-Père. Nous nous jetons dans les bras de la maternité divine, eucharistique et infaillible de Marie. Nous nous jetons dans l'engendrement de la nature divine, de l'engendrement éternel de Dieu en nous. Nous nous jetons dans tout ce qui peut faire exprimer en nous la transverbération du glaive qui transperce de part en part les membres vivants de Jésus vivant et entier. Et c'est sûr que nous n'en sommes que finalement que nous sommes dans cette prière-là, dans cette messe que nous faisons, dans laquelle nous entrons. Nous ne faisons rien d'autre que de dire oui à cette prière, dans cette prière, dans le saint des saints, de l'amour vivant et intérieur de Dieu présent et ouvert, de dire oui par obéissance. Parce que ça ne peut être que par obéissance. Puisque ça nous dépasse complètement. Et donc, nous disons oui à être des instruments méritoires du cri silencieux du Verbe de Dieu dans tous les êtres humains sans exception, y compris ceux qui sont dans l'anastase de la résurrection. De manière à ce que comme ce cri dépasse ce qu'il y a avant le ciel et la terre, le ciel y soit englouti lui aussi. Et c'est par obéissance, vous savez, ça ne peut pas être autrement que par obéissance. On pourrait dire, oh, mais non, nous, on fait tout ce qu'on peut, humblement, pour être sensible, surnaturellement et divinement. Ah, cette infestation de haine de Dieu dans tous les êtres humains, jusqu'à la fin du monde. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que nous ne le faisons pas obéissance, et la preuve, c'est que nous n'y sommes pas si sensibles que ça, ou sans nos larmes. Saint Paul dit, mais vous n'avez absolument pas été jusqu'aux larmes de sang. Et donc, nous le faisons par obéissance. Nous disons oui, quoi. Pour que ce soit la transverbération dans le cœur de Marie et dans la supervenue du Saint-Esprit dans l'église de la Jérusalem immaculée et accomplie du cinquième sceau de l'Apocalypse, pour que nous en soyons les instruments dans le corps spirituel venu d'en haut, pour lequel et auquel, vis-à-vis duquel nous nous adaptons à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur donne d'être engendrés éternels de Dieu. Alors le Fils de l'homme rétablit toutes choses dans le saint dessein de la paternité vivante du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois vertus qui demeurent à jamais, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. L'obéissance absolue, le fait d'aller au-devant de ce qui nous dépasse dans le Verbe de Dieu pour faire cette demande de pardon. Ob irae. C'est l'entrée dans la charité. Et c'est par l'amour fou du Verbe de Dieu vis-à-vis et du Christ, mais du Verbe de Dieu, et de tout être de vie éternelle à l'intérieur de Dieu, cet amour fou de Dieu pour ceux qui sont dans un amour à égalité avec lui. C'est avec cette descente de l'amour brûlant, éternel et total de Dieu, du ciel de Dieu intérieur, jusqu'à la terre de notre supplication qui seule peut nous permettre de rentrer sans aucune hésitation dans la charité de la Jérusalem. Alors à ce moment-là, elle est poussée. L'épousée agréée et l'épousée glorieuse sont une seule sponsalité d'amour, et c'est la seule consolation qui puisse faire que la paternité vivante de Dieu trouve ses délices dans la nature divine répandue dans le mariage spirituel de la création tout entière. À cet appel-là, nous disons oui, puisque nous ne pouvons rien faire d'autre. Les enfants le font avec nous, parce qu'ils disent oui, parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils ont fait pénétrer et recueillir l'innocence crucifiée et triomphante de la conception incréée de Dieu dans l'Immaculée Conception, jusque dans leur conception, parce que ils ne peuvent rien faire d'autre que de passer par ce baptême du feu, du véritable baptiseur. C'est sûr, personne On a besoin de nous convaincre que l'heure est arrivée. Alors, je dis, moi, je les poussais, c'est-à-dire la lumière d'amour éternel qui est Dieu lui-même, la deuxième personne de la très sainte Trinité. J'ai dit, oui, je m'aime, maintenant. Me voici dans la liberté du temps substantiel et éternel. Me voici dans le oui originel qui lui-même subsiste dans le feu du oui éternel de la spontanéité des deux premières personnes de la très sainte Trinité. La foi, si elle ne va pas jusqu'à la charité de la deuxième procession de la très sainte Trinité, n'atteint pas ce que le Père attend de son Fils bien-aimé dans la glorification de sa propre gloire. La vie chrétienne, vous savez, grâce à ça, ce qui nous arrive aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est pas d'être souriant, un petit peu moins susceptible, etc., etc. Ça, c'est de l'hindouisme anatnamo bouddhique, la pureté, on ne le méprise pas, mais là où Dieu nous attend, là où Dieu nous attend, c'est dans l'avènement du Fils de l'homme et l'ouverture du cinquième sceau et du royaume accompli de l'éternité, s'inscrivant dans l'instant présent de l'histoire de l'Église, dont nous sommes les instruments. Et nous n'avons qu'une seule porte d'accès à cette charité-là, c'est de dire oui dans notre conception, et que ce oui, il est les dimensions, la largeur et l'intensité du oui de l'Immaculée Conception, qui est elle-même l'expression éternelle et immortelle du oui, de l'aspiration active des deux premières personnes de la très sainte Trinité pour être brûlées dans la passivité substantielle agréée d'amour du Saint-Esprit qui réalise en nous l'acte pur de ce que nous réalisons sous l'effet de la grâce que Dieu donne dans la plénitude de la gloire et de la vérité des derniers sceaux de l'Apocalypse. Bon, tout ça on le sait bien, mais il faut se jeter dans la fournaise et se laisser prendre, assumer, assimiler par ce oui. Et ainsi arracher à Lucifer, à son plus grand scandale, arracher à l'esprit de ce monde, tout en pénétrant toutes les profondeurs de la terre, sans s'échapper, eh bien nous arrachons à la miséricorde de Dieu, cette Pentecôte terminale de l'Immaculation, victorieuse d'amour, victorieuse de tout, dans toutes les conceptions, dans toutes les intériorités humaines. C'est entre les mains de la transverbération immaculée et sacerdotale, victimale, éternelle et glorieuse d'amour, du royaume de Dieu inscrit dans la terre. Et nous disons oui, hein, tout simplement, pour s'y plonger comme on se plonge dans une fournaise, pour pas y disparaître, mais pour être là, tout à fait nous-mêmes. Dans le monde nouveau, nous sommes les membres vivants de Jésus entier vivant, et nous sommes le lieu du Saint des Saints, des délices, la paternité divine de Dieu, où vont pouvoir se désaltérer tous les êtres de vie. C'est ça la vocation de l'Église dans l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse jusqu'à la toute-puissance de ce oui qui aura fait évacuer et disparaître complètement tout ce qui n'est pas ce oui brûlant du feu, à créer de la charité dans la charité universelle et glorieuse. Ça a l'air de rien de le dire, mais c'est important de prononcer ces paroles. Parce que comme ça, on ne se fait plus illusion sur la vocation chrétienne qui est la nôtre dans ces temps de... Je reconnais, c'est fatigant. Quelque part, c'est fatigant. Parce que ceux qui fuient loin de Dieu dans le méchaume, j'allais dire, dilatent leur personnalité et leur excellence personnelle. Ce qui est impossible à faire dans ce oui et la demande de pardon que nous faisons pour que tous les êtres de vie puissent venir se désaltérer à l'intérieur du Saint des Saints de Dieu le Père, dans les délices qu'il a d'être au fond de la nature humaine, avec les plus grands délices qui soient, l'acte pur du paraclet du Saint-Esprit, dans la charité accomplie en plénitude reçue des membres vivants que nous sommes, de Jésus vivant, sans aucun mérite de notre part. On se rapproche, hein, de notre âme de la salette, hein, c'est... on est dans le tritium de notre âme de la salette, là, hein, ça y est. Et notre âme de la salette, elle a dit, les apôtres des derniers temps, les enfants, les apôtres des derniers temps proclameront les fins dernières, expliciteront les fins dernières. La succession apostolique glorieuse de l'Église de la Terre expliciteront, enseigneront et engendreront la réalisation des fins dernières. Si elle ne le fait pas, alors l'Église sera un cloaque d'impureté. Le pâturage d'Asmodée et des siens. Malheur, malheur, malheur à ceux qui pensent que la sainteté dans la terre se trouve dans la terre, dans l'esprit de ce monde. Malheur, ceux-là sont bloqués, coincés, immobilisés. Et ils ne peuvent plus rentrer dans la charité. Mais c'est librement, c'est en toute liberté. Hein. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin dit, il faut bien le citer presque à chaque sermon celui-là, il dit, le péché par excellence, c'est un péché par omission. Trouver dans cet admirable exercice et ce ministère divin de l'Église catholique dans son épanouissement et son Nazareth glorieux jusqu'à son Noël glorieux, hein, de là, du passage de la première résurrection, Jésus-Marie, Joseph, à la deuxième résurrection dans le corps spirituel venu d'en haut. C'est l'épître d'aujourd'hui. C'est notre liberté et C'est notre liberté profonde, c'est la liberté du Saint-Esprit aussi qui se conjoint à la liberté de Marie et à cette descente de cette liberté invincible en nous. Du haut des profondeurs au-dessus du ciel angélique et jusqu'à la profondeur de la terre, descend en nous. À ceux qui le reçoivent, ils sont engendrés de Dieu avec lui. Bien sûr, on peut y trouver une certaine fatigue. Mais sûrement pas la lassitude. Une fatigue, pourquoi? Parce que le fait de s'arracher à ce à quoi on est attaché dans l'esprit de ce monde, ça demande des force. Mais une fois qu'on est totalement arraché à ces liens qui nous lient à l'esprit de ce monde, ce n'est pas fatigant. C'est au contraire d'une simplicité, un envol, d'une légèreté, d'une gloire, d'une splendeur, d'une beauté qui provoque les délices de Dieu lui-même. Et du coup, c'est tellement fort que c'est tellement grand, c'est tellement immense, c'est tellement glorieux, c'est tellement sponsal, que du coup, on tombe en extase. Et vous savez que dans l'extase, le ravissement qui nous prend et le ravissement qui vient à nous de Dieu en nous, nous introduit dans le sommeil mystérieux de l'assomption de cette terre, de ce qui doit être assumé dans la perfection immaculée de l'Église glorifiée, de cette terre. Et ça, vous savez, ce sommeil mystérieux n'est pas du tout fatigant. Alors on y aspire. C'est pour ça que c'est bien sûr, de prier, c'est bien de se livrer, c'est bien de dire oui, c'est bien de célébrer la messe. Mais aussi, il faut y être transformé dans une union parfaite. Et une charité surnaturelle, divine, et engendrée dans tout ce qui scrute les profondeurs de Dieu en nous, parfaite, accomplie, et en plénitude surabondante, reçue. Alors, vous allez dire, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce qui est impossible pour l'homme, c'est Dieu qui le fait lui-même, en entier. Il suffit de s'y laisser prendre dans une charité qui brûle et embrase toutes les profondeurs de Dieu dès cette terre en nous. Une charité accomplie en plénitude reçue. Hein? C'est les fins dernières. Mais les fins dernières ne vont pas durer juste deux ou trois heures. Hein. Les fins dernières, vous savez, connaissez le Padre Pio. Hein. Pour que quelqu'un dise, oh mon Dieu, mais c'est effroyable. C'est vraiment la fin du monde maintenant. Il n'y a plus de temps. Quoi. Oh mon Dieu, Padre Pio. Padre Pio, il a dit, paf. Il fallait qu'il reçoive une grande gifle, c'est sûr. L'humanité n'est pas encore parvenue à la moitié de son pèlerinage dans le temps de la terre. C'est le début du royaume de Dieu. Voilà l'enseignement de Saint Irénée. Il y a 222 jours plus 19. Hein. C'est le début. C'est le début du pèlerinage de l'Église dans le royaume de Dieu sur la terre. C'est fini toutes ces histoires de Wanakum, Sinanakum, Conditionani, Mystico d'Angonakum, Charismatico d'Angonakum. Tout ça, c'est terrestre, ça. Mais l'histoire est terrestre aussi. Le royaume de Dieu, c'est dans l'histoire, et c'est dans. La terre, dans le sein des saints, des délices d'amour de Dieu, le Père au fond de nous. Il trouve tous ces délices dans la nature humaine, à l'intérieur de l'Église, de les défunts dernières. Donc nous, on ne sait pas. On sait une chose, c'est que c'est ça. On sait une chose, c'est que ce qui n'est pas ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Et du coup, on gagne beaucoup de temps en le sachant. Parce que si je fais partie de l'EAP de la paroisse, hein, l'équipe d'animation pastorale, ah oui, ça, mais non, c'est, voilà, c'est, je participe à quoi ? Au nicolaïtisme, au balaamisme, au royaume de Jézabel, enfin, tout ce qui est dénoncé dans les sept églises, chapitre 2 d'Apocalypse. L'église, c'est pas ça du tout. Il y avait l'église, les membres vivants de Jésus vivant, dans les fins dernières. Alors là, l'église est tout à fait elle-même. Eh bien, nous avons peut-être une gloire, c'est possible. C'est celle d'accepter, de dire oui, si le Saint-Esprit veut bien, si le Père le veut, si la très sainte Trinité nous prend, de faire partie de l'Église des fins dernières. C'est un choix qui date de loin, vous savez. C'est un choix que nous avons déjà exprimé, comme disait le jumeau Bruno, que nous avons déjà exprimé en s'inscrivant dans le livre de la vie éternelle à l'instant de notre conception. Enfin, pas à l'instant de notre conception, mais à l'instant du rebondissement de lumière de l'Immaculé, amour que Dieu a mis en nous dans l'unité. Du temps qui commençait à se déployer après dans notre conception, après notre conception. Ah, le démon, Satan, une fois exorcisé, même s'il n'est pas exorcisé, ne peut pas nous atteindre là. On est totalement dehors. Il ne peut même pas voir ce qui se passe. Dans les retrouvailles de charité et ce choix libre de se donner jusqu'à la fin du monde, dans les fins dernières de l'Église. Bon, vous savez, si je parle beaucoup de ces choses-là, c'est pas pour c'est parce que si on n'en parle pas, si on ne proclame pas les fins dernières de manière infaillible, dans la doctrine infaillible et accomplie et la fécondité effective de l'Église, si ce n'est pas proclamé, l'univers qui est en nous pour s'y épanouir ne pourra pas apparaître, ni être assumé, ni être assimilé par la gloire qui correspond de cette terre. S'il n'y a pas de résurrection pour nous, dès cette terre, c'est donc que le Christ n'est pas ressuscité. s'il n'y a pas le cinquième sceau de l'Apocalypse, où on reçoit dans le corps spirituel qui est en affinité avec la résurrection bien avant la fin du monde, c'est que le Christ n'est pas ressuscité. Est-ce que tu as lu ? Donc, comme ça on perd plus de temps avec des discussions inutiles. Je vous demande pardon. Je sais que je ne devrais pas dire, redire toujours la même chose. J'en suis désolé, je sais que ça peut être... Mais il faut le dire non seulement à ceux qu'on voit, mais aussi à tous ceux qu'on ne voit pas. Esaïa, chaque jour, il y en a 10 millions de nouveaux qui doivent l'entendre pour la première fois aujourd'hui. Faut le dire intérieurement, faut le dire effectivement, faut le dire lumineusement, infailliblement, de manière mariale, dans une maternité divine, effective, absolue. Voilà. Soyez bénis.